Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Gilles. Entrepreneur de talent, originaire d'un petit pays au centre de l'Europe, la Suisse, avec de très grandes ambitions et déjà plein de belles réalisations, je t'invite à le découvrir maintenant. Donc, comme à chaque fois, maintenant que c'est enregistré, tout ce que tu dis va être retenu contre toi. Ce qui est important, c'est le va être. Bonjour Gilles, comment ça va?
Très très bien. Merci.
Jusqu'ici, tu veux dire.
Et toi?
Oui, moi, ça va toujours, surtout en très bonne compagnie. Donc, je suis extrêmement content de te recevoir aujourd'hui, premièrement, parce que tu restes une personne que j'estime être qualité, mais surtout, tu es le
Merci.
premier compatriote que je peux enfin interviewer. Donc, hop, Suisse. Puis, ne faites pas honte aux mondiaux, au Qatar, s'il vous plaît. Les gens ne voient pas, mais je croise les doigts. Bref, après ce placement de produits sportifs, la question la plus facile et la plus compliquée à la fois, Gilles, qui es-tu? Présente-toi pour les personnes qui vont te découvrir ou te redécouvrir ici.
Alors, je suis une personne particulière dans le sens où maintenant que j'ai un petit peu vieilli et que j'ai moins 25 ans comme avant, je me rends compte que mon parcours a été toujours teinté par la créativité, c'est-à-dire par le refus de faire les choses comme on l'a toujours fait et par la recherche constante de faire les choses différemment pour le faire mieux, plus facilement, plus rapidement, avec plus de plaisir. Et c'est quelque chose, en fait, qui est présent partout. Je dirais dans tous les mandats que je fais en tant que conseil, on va toujours chercher à faire les choses un peu différemment. On va toujours chercher à amener de la nouveauté, à amener une nouvelle manière de faire, à bousculer un peu les choses qu'on croyait établies pour essayer de faire les choses différemment. Tout ça parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue de faire des choses qui sont pas les plus efficaces au monde. Donc je pense que ça, c'est une des clés de lecture que j'avais certainement pas il y a 15 ans, mais qui devient très nette maintenant. La deuxième, c'est que je suis avant tout un gros flemmard. Ça veut pas dire que je suis pas un grand travailleur, mais ça veut dire que le boulot de singe, ça m'énerve. Et que ce que j'aime, moi, c'est qu'on fasse les choses efficacement et avec le moins d'efforts possible. Je me rappelle, c'était une des choses que mon père me disait à l'époque. Il me disait, de toute façon, tu es beaucoup trop flemmard. Tu veux toujours en faire le moins possible. Aujourd'hui, je pense que j'ai su transformer ça en qualité en cherchant toujours le chemin le plus court, quasi maladivement. Donc, en mettant toujours l'efficacité au cœur des choses. La troisième des choses qui me caractérise, c'est que j'aime le collectif. C'est-à-dire que je pense que on peut faire tout un tas de choses seul, mais on les fait beaucoup mieux si on est plusieurs. Et que derrière le collectif, il y a surtout du respect des gens et du respect de ce que les gens peuvent amener, donc de l'écoute, une certaine empathie et la capacité à laisser un espace aux gens dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer pour justement rentrer dans le cycle d'avant, c'est-à-dire alimenter le cercle de la créativité et de l'efficacité. Donc, je pense que c'est ces trois points qui me caractérisent le plus dans ce qu'on peut citer.
C'est bien beau, mais tu réalises que rien qu'avec le point, la créatif, bousculer le statu quo, tu vas perdre ta citoyenneté. Je dis ça, je dis rien. Alors moi, j'ai déjà quitté le pays. Ça
Alors,
sonne pas typiquement suisse, tout ça.
c'est derrière un calme apparent, la Suisse gronde et la Suisse gronde de partout. Et la Suisse a toujours grondé parce que comment pourrait-on être le pays où les salaires sont les plus élevés, où le coût de la main-d'œuvre est la plus élevée et où la santé économique du pays et le chômage est le plus bas s'il n'y avait pas des choses qui grondaient d'une manière plus lisible. Alors, on est peut-être l'inverse que d'autres pays, c'est-à-dire que d'autres cultures vont mettre en avant et faire beaucoup de bruit pour des petites avancées. Et nous, on est capable de livrer des énormes avancées, des ruptures technologiques, sans en faire toute une publicité. C'est peut-être la différence. Il y a plus de modestie, il y a moins de la volonté de faire beaucoup de bruit dans ce qu'on fait. Mais je pense que la Suisse, c'est un pays qui gronde et on le voit aujourd'hui, en étant le pays qui a la législation la plus intéressante pour toutes les crypto-monnaies, pour toutes les technologies liées au Web3, qui a fait que la plupart des entrepreneurs européens de ces domaines se sont réfugiés chez nous derrière notre apparente tranquillité.
Alors, je rassure tout le monde, évidemment que cette émission, pour ne pas dire cet épisode, est commandité par l'ambassade suisse
Voilà.
et promotion suisse à l'étranger. Mais je rassure tout le monde, aucun chauvinisme ici. Gilles et moi ne faisons que des constats totalement neutres. Effectivement, la Suisse est bourrée de qualités. Je vais rebondir là-dessus. Précisément, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu as parlé effectivement de Web3. Tu as abordé effectivement l'entrepreneuriat. Quand on va voir ta page LinkedIn, tu fais plein de choses. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait Gilles en cet été 2022?
Alors, Gilles, depuis un certain nombre d'années, il se concentre sur deux choses principales qui ont en fait un but commun. J'ai une première partie de ma vie qui était une vie d'employé, c'est-à-dire on est dans une entreprise et on essaye de faire progresser l'entreprise. Et j'ai été toujours actif dans les systèmes d'information, mais de nouveau avec une particularité, c'est que moi j'ai pas une formation d'ingénieur, j'ai une formation d'économiste, et donc j'ai toujours abordé le monde différemment que tous mes petits copains ingénieurs qui voyaient le monde comme un ingénieur, et moi je voyais le monde très différemment. Donc j'ai toujours été dans des milieux où j'étais pas forcément naturellement présent pour justement pouvoir bousculer les choses et amener les choses différemment. Et ces différentes expériences nous ont amené à constater une chose qui est en fait le fondamental élément qui drive tout ce que je fais aujourd'hui, qui est de dire qu'en fait les entreprises sont des machines, quelles qu'elles soient, à gâcher les talents des gens. Et que c'est quand même dommage, et j'en discutais encore avec une personne la semaine passée, c'est quand même dommage que la seule ressource, et j'aime pas utiliser ressource, mais la seule ressource de l'entreprise qu'on massacre et sur lequel on n'essaye pas d'en tirer le maximum de ce qu'on peut en tirer, ça soit l'homme, alors qu'on ne tolérerait pas ça sur un véhicule qu'on a acheté, sur un camion qui doit rouler ou sur une machine qui doit produire. Donc ça, c'est le constat qu'on a eu, parce que l'ensemble des systèmes de gestion, d'organisation de l'entreprise, était orientée sur la performance économique et n'était surtout pas faite pour permettre aux gens de s'exprimer avec tous leurs talents pour qu'ils puissent amener ce qu'ils avaient à amener sur l'entreprise. Et ce constat, qui est de dire en fait, en mettant des systèmes d'information dans les boîtes, on fait toujours tout faux, parce qu'on s'attaque au processus, on s'attaque à la méthode, on s'attaque à la création de valeur par rapport aux choses, ne marche jamais complètement parce qu'on est un espèce d'animal fou qui s'appelle l'humain au milieu, qui fait que tout ce qu'on a mis en place ne marche jamais tout à fait et que la promesse qu'on a faite, on n'arrivera jamais au bout derrière. Donc ça nous a amené sur le constat avec la petite équipe à l'époque qu'on avait créée, qui est de dire en fait, on ferait mieux de s'intéresser à notre problème numéro un, qui est l'humain, et à ce comment faire pour que cet humain puisse déployer ses talents dans l'entreprise, plutôt qu'à s'intéresser à comment maîtriser l'humain pour qu'il sorte surtout pas de sa case. Parce qu'on a une certitude, et je pense que tout le monde le constate, c'est que de toute façon l'humain, il est fait pour sortir de sa cage. Donc on a décidé de changer de combat et de commencer à réfléchir à ça. Ça a été le début de cette aventure qui s'appelle Keybird, qui était de dire mais qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre que ça puisse arriver? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça arrive? Qui s'est développé de deux manières, c'est-à-dire la première dans des méthodes d'accompagnement d'entreprises aujourd'hui qui représentent toujours une partie de mon activité. On accompagne les entreprises dans des dynamiques de changement, mais de nouveau, je ne les accompagne pas tout à fait comme mes petits concurrents et amis sur le marché. On fait les choses un peu différemment. On a des approches très différentes. Et d'un autre côté, qui a fait qu'on a développé ce produit qui s'appelle Keybud, qui vise justement à permettre à l'humain de s'exprimer pleinement pour le bénéfice du bien commun de l'entreprise. Et c'est ce qu'il a fallu définir. Et comment est-ce qu'on monitore, capture le bien commun de l'entreprise, sachant que ça change en permanence en fonction du marché qui change, en fonction du monde qui évolue, en fonction des incendies ou des guerres qui peuvent se dérouler à gauche ou à droite, ou des petits virus qui viennent nous embêter, comme on a connu ça très fortement ces dernières années.
De quoi tu parles? Je n'étais pas au courant. Il y a un
Au
truc sur
Québec.
lequel... Non, non, oui, au Québec et au Canada, on
Vous
n'était
avez
pas
été
concernés.
préservé.
C'est ça, on a été préservés. Non. Quel a été le déclic de passer d'employé pour pas dire intrapreneur, c'est vu ce que tu as amené, à entrepreneur. Parce qu'on s'entend que c'est pas une des caractéristiques les plus reconnues en Helvétie. Je dis, on est des très bons employés, on est des limites des perfectionnistes, on est travaillant, etc., etc. On est bon dans l'innovation pour les autres, mais on n'est pas connu pour fonder des compagnies, à part les Hayek et les quelques autres qui sont des exceptions. Mais qu'est-ce qui a été ce déclic entre quitter cette sécurité pour se lancer dans l'aventure d'entrepreneuriat?
Alors, la conviction qu'il y a des choses qui peuvent pas se faire en entreprise, c'est que si on est arrivé au constat que les entreprises gâchaient les talents, c'est parce qu'aussi nos propres talents n'étaient pas complètement exploités malgré tous nos efforts qu'on pouvait faire. Donc ça amène une frustration. La deuxième chose, c'est que je trouve que le boulot de consultant, c'est un boulot super intéressant parce qu'on picore, on voit beaucoup de situations différentes et ça nous rend beaucoup plus efficaces au fil de l'eau. Donc ça, c'est de toute façon une activité qui me plaisait. Et puis la dernière, c'est que cette vision de Keybud et de ce que ça pouvait amener dans les entreprises, parce que tout le concept initial s'est fait en tant qu'employé, était tellement belle, tellement novatrice et tellement porteuse de capacité, bah, que j'avais bien envie de voir si cette histoire pouvait amener à quelque chose et pouvait se réaliser et que c'était pas possible de le réaliser en étant employé. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui se sont dit, ben, il y a un moment, il faut y aller. Alors je savais pas trop comment j'allais y aller, mais les choses se sont faites toutes seules et après, quelque part, une fois qu'on se met en mouvement et qu'on se met en chemin, si on sait ouvrir les yeux sur ce qui peut se présenter, le chemin est tout à fait fa facile. Pour autant qu'on soit prêt à quitter un monde de petite sécurité, d'horaires à peu près maîtrisés, pour quelque chose dont on ne sait plus, enfin qui s'entremêle complètement et tout le temps avec notre vie de tous les jours en permanence.
C'est beau ce que tu dis. Je vais mettre tout ça sur un t-shirt.
Je peux en avoir
Oui, c'est sûr. Il sera dédicacé, ça sera premium. Je veux dire, c'est bien beau. Tu sais, tu as parlé de conviction, tu as parlé de toi. Ça se comprend, ça s'entend. Puis je te dirais, pour connaître un petit peu la Suisse, c'est assez admirable. Parce que en termes d'oser penser différemment, bah, c'est comme pas. Comme je disais, on n'est pas reconnu pour ça. Comment ça s'est passé avec la famille, les proches, quand tu as annoncé ça, tout le monde a bien compris, puis s'est dit, voyons, Gilles, j'ai toujours su que tu serais fait pour ça, ou au contraire, on t'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe?
J'ai eu les deux échos. Il y a des gens avec qui j'avais fait mes études qui m'ont dit seulement maintenant, on pensait que tu le ferais beaucoup plus tôt que ça. Donc ça, c'était rigolo. Ma famille, bon, j'ai quand même, j'avais à l'époque, j'avais combien, 2 ou 3 enfants? Je crois que j'en avais déjà 3. Et ça a créé de l'inquiétude. Et puis après, les choses se sont passées assez naturellement, donc ça allait. Par contre, ils pensaient pas que ça serait aussi prenant dans ma vie, parce que c'est quand même très prenant. Et il y a eu un peu de temps. Enfin, il a fallu du temps pour qu'on s'adapte à cette vie-là. Après, le plus difficile en tant que personne, si je reviens un peu à moi, c'est qu'on quitte un monde de stabilité apparente, c'est-à-dire j'ai mon petit salaire qui tombe à la fin du mois, puis j'ai pas vraiment de quoi m'inquiéter, quoi que ça change assez souvent, hein, en Suisse, on a quand même une sécurité de l'emploi qui est toute relative, hein, on a quand
Oui.
même un des codes du travail qui est les plus libéraux d'Europe, où on peut se débarrasser de n'importe quelle personne nous embête, moyennant 1, 2 ou 3 mois de préavis en fonction du contrat qu'on a, mais sans aucune raison objective, en disant aujourd'hui j'ai plus envie que tu sois là, s'il te plaît, tu pars. Ce qui ne peut pas arriver en France, ni en Italie, ni en Espagne, par exemple. Donc de toute façon, on a une sécurité très relative parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Donc l'inquiétude, bah, de dire qu'on a perdu une certaine vision, mais une vision qui nous enferme, pour une liberté nouvelle qui nous permette de faire tout un tas de choses avec le risque Bah, moi, je voyage pas léger. On a maintenant 4 enfants, donc il fallait continuer de faire que l'argent rentre et qu'il y ait un peu de beurre dans les épinards.
Je prends toujours un peu de recul pour retirer l'Helvète en moi, puis pour que, évidemment, ça soit un peu plus compréhensible ou plus parlant pour la francophonie qui nous écoute. Souvent, on présente la Suisse avec plein d'avantages, effectivement. Tu sais, on a des hauts salaires, on a un haut taux de la vie. Tu sais, en plus, on a des beaux paysages, cartes postales, etc., etc., etc. Comment ça se passe au niveau du monde de l'entrepreneuriat en Helvétie pour toi? Si tu devais le présenter à des gens qui soit fantasment la Suisse, soit ne connaissent pas du tout, comment ça se passe?
Alors ça a beaucoup changé dans les dernières années, hein. Je pense qu'au moment où la Suisse est gentiment en train d'évoluer vers les structures et la capacité à attirer du capital et à pouvoir développer des startups un peu conséquentes. Aujourd'hui, on a encore quelques problèmes législatifs à résoudre, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas des conditions cadres qui sont extraordinaires pour ces startups. Et il y a beaucoup de startups qui naissent ici pour aller dans des pays pas loin de chez nous, hein, comme Berlin ou Londres, où les conditions sont nettement plus intéressantes au final quand on passe de la petite startup à celle qui pourrait devenir une licorne. Ça pourrait changer, mais il y a beaucoup d'aide qui s'est mise en place auxquelles j'ai pas beaucoup bénéficié parce qu'elle a ses contraintes et que moi j'ai quand même une machine qui aime ma liberté au final. Donc il faut rentrer, c'est de nouveau rentrer trop des moules. Mais ça va de mieux en mieux. Aujourd'hui, il y a des clusters, il y a des zones où il se passe des choses, il y a de l'intérêt pour les startups. Ce qui manque encore beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle le seed capital. Donc, ce qu'on va pouvoir retrouver assez facilement aux États-Unis ou dans d'autres pays plus avancés que nous dans ces domaines-là est très difficile en Suisse. En Suisse, bah, c'est le problème de la Suisse, hein. Tu as une idée, elle est bien. Il faut que tu fasses le produit parce que si t'as pas fait le produit, on ne sait pas si ça peut marcher parce qu'on est des pragmatiques, donc on va pas croire une promesse, on va tester un produit. Puis une fois que tu as testé le produit, ben, tu as un cycle de décision qui est très lent. Donc ces choses vont assez lentement et c'est là-dessus que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se cassent la figure et on est encore dans une zone où on pourrait tout à fait se casser la figure là. Et on commence à se dire qu'on va certainement être plus facilement prophète dans d'autres pays que le nôtre avant d'y revenir. Mais la principale difficulté, elle est là. Après, sur ce qui anime quand même et ce qui me permet de nourrir ma famille, c'est le conseil. Et par contre, paradoxalement, le conseil, quand on a quelques différences par rapport à ses concurrents, bah, c'est un pays qui est facile pour faire du conseil. En tout cas, pour moi et de mon point de vue, les gens qui ont des compétences et qui agissent avec pragmatisme et réalisme, peuvent tout à fait développer une activité de conseil assez facilement, et une activité de conseil qui s'auto-nourrit parce que le monde est petit, donc les gens qui ont des compétences sont assez vite reconnus. Passer la phase de démarrage et les deux, trois premiers clients, c'est assez facile de continuer en tout cas, pour moi, ça a été assez facile de continuer dans cette voie-là. Par contre, pour développer un produit, c'est plus compliqué.
Pour les personnes qui nous écoutent, Gilles est considéré comme un rebelle en Suisse. Gardez cette idée en tête quand vous l'écoutez. J'aborde dans ce sens, j'aborde dans ce sens-là. Non, mais il faut dire les vraies affaires. C'est pour ça que c'est très intéressant. Puis j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Parce que tout ce que tu me dis résonne en moi, mais beaucoup trop. Tu as parlé précédemment du Web3, puis justement de cette. Des opportunités, des avantages qu'il y avait. Quelle est ta relation avec le Web3?
Alors, elle est vieille et quasi naissante en même temps. Donc, on est toujours dans une certaine ambivalence. Elle a une certaine profondeur dans le sens où, quand on a conçu les fondamentaux du produit qui s'appelle Kibbe, on voulait placer quelque chose qu'on avait nous nommé avec des certificats parce que c'était la techno qu'on pouvait utiliser à l'époque, mais qui devait être très facilement transmettable, qui devait pouvoir prouver qu'une information était juste. Et on avait mis une deuxième chose qui était importante, c'était la liberté. Et on voulait surtout pas développer quelque chose qui est une logique de plateforme où on force tout le monde, à la Salesforce ou aux autres, à venir sur ma grosse plateforme dans cette logique-là. Donc déjà dans ces fondamentaux, on avait ces graines qui étaient posées. Alors c'est les choses les plus compliquées à réaliser. Puis la technologie, on savait pas si on allait un jour trouver une technologie. Donc, quand on a vu la blockchain arriver et encore plus le Web3 avec la centralisation, s'est dit la décentralisation, s'est dit mais il y a tout d'un coup des choses qui font papa maman qui résonnent et qu'on pourrait utiliser. Bon. Et maintenant qu'on est en train d'établir le plan stratégique, ben, le Web3 s'est quasi imposé comme une cible. Alors on n'y est pas encore, hein, on commence à rentrer dans ce monde-là, mais c'est imposé comme une cible parce qu'on ne croit fondamentalement pas aux logiques de plateforme. Je pense que j'ai un ami proche qui dit que mes visions sont souvent assez justes, même si elles ont beaucoup trop d'avance. Mais je pense que les plateformes vont tomber les unes derrière les autres, hein, rien que par le fait que les pirates seront toujours meilleurs que les meilleurs security officers et que c'est facile de capturer beaucoup de données sur une grosse plateforme qu'on a beaucoup. Et que les sociétés commencent à comprendre avec les problèmes géopolitiques que c'est pas très sain de tout mettre sur une plateforme qui est sur une législation qui n'est pas la sienne, parce que tôt ou tard ils vont le payer. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les banques commencent à le comprendre en Suisse et on commence à entendre. J'ai des prospects dans les banques qui m'indiquent clairement, si on peut éviter les plateformes américaines, on va que mieux se porter. Donc je pense que la logique de plateforme arrive gentiment à une fin. Et qu'il va falloir faire quelque chose d'autre derrière. Par contre, on ne peut plus avoir comme on avait avant les plateformes, c'est-à-dire j'ai mon SAP chez moi, tu as ton SAP chez toi, puis il n'y a rien qui communique, c'est très compliqué de faire communiquer. On va devoir développer quelque chose d'hybride au milieu de tout ça, donc avoir des solutions qui peuvent être décentralisées, mais capables de communiquer entre elles, un peu comme un organisme le ferait. Et c'est exactement ce qu'on avait posé comme concept au départ, et c'est pour ça qu'on s'oriente dans l'intégration de cette dynamique et de cette technologie, parce que c'est ce qui va faire que demain, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite et on va être beaucoup plus organique dans un déploiement qu'une grosse plateforme, quelque part toujours facile à hacker, dangereuse à maintenir, et qui a des complexités de ressources à mettre en place qui sont énormes. Et dans un monde où on va vivre des coupures d'électricité, et tout un tas de choses joyeuses, ça va être encore plus difficile à maintenir cette histoire.
Effectivement. Non, j'ai lu la presse helvétique. J'ai appris qu'il y aurait des coupures d'électricité au pays de l'hydroélectricité. Bref,
Oui, parce qu'il n'y a plus d'eau.
c'est ça, non,
Donc,
mais c'est ça.
quand il n'y a plus de neige, puis que les glaciers ont fondu, puis qu'il n'y a pas d'eau, ben, les barrages ils sont pas assez pleins, donc ça produit pas assez d'électricité. Et puis donc du coup, quand tout le monde tient un poste basé sur une vieille fable de La Fontaine, hein, la cigale et la fourmi, ben, même les Suisses qui sont reconnus pour être des cigales, des fourmis en règle générale, ben, depuis une trentaine d'années sont devenus un peu cigales et on commence à voir le magnifique résultat de ces politiques publiques à court terme qui sont en train d'arriver. C'est rigolo.
Ah oui, c'est rigolo, surtout quand ils ont expliqué qu'il fallait acheter du bois de chauffage,
Ouais.
alors que quasiment personne n'a une cheminée chez eux. Quasiment tout le monde vit au mazout. Donc il faudra qu'on m'explique quelle est l'idée derrière. On va faire, on va faire comme aux États-Unis, on va trouver un chaudron, on va mettre les bûches dedans, puis on va tous être dehors. Bref, plus solidaire avec vous. Bon, à 5 000 km, mais je reste solidaire.
Merci.
C'est le soutien inutile, mais je pense à vous. Je ris, mais pour vrai, je ris jaune, parce que pour moi, ça a été un choc et ça a été une surprise, parce qu'effectivement, tu sais, quand on parle de planification, qu'on parle effectivement du côté cigale, puis qu'on pense justement à ces couches d'administration qui fait qu'au moins, chaque couche se pose au moins 10 fois une question avant de faire quoi. puis se dire qu'on en arrive à ce stade-là, et pourtant on n'est pas en 2050, on est en 2022. Puis on rappelle quand même qu'il fait, je dis fait flette, je passe trop de temps au Québec, moi. Il fait froid en Suisse, je le rappelais, ça c'est un beau pays, mais de montagne, etc. Ça va être un challenge. Mais bon, on aime les défis. Au pire, on fera plus de marches, plus de hiking et autres.
Pour se réchauffer.
Oui, on va tous devenir sportifs et sportives. T'as amené plein de bons points, puis on reconnaît l'analytique en toi, on peut percevoir le rebelle en toi. Beaucoup t'a rappelé que tu n'aimais pas le... n'aimais pas, excuse-moi, ni les cages, ni le contrôle. Les cages, je crois que tout le monde peut comprendre. Mais quand tu parles de contrôle, tu parles de quoi? Tu parles du cadre, tu parles des bonnes pratiques, puis là je fais des grands guillemets, un gros clin d'œil, tu parles de l'ouverture d'esprit des gens. Qu'est-ce qui te chicote?
J'ai discuté avec l'ancien CIO de Renault, non, Peugeot Citroën, PSA à l'époque, qui est un monsieur à la retraite, mais qui est tout à fait passionnant et qui est très actif dans tout un tas de choses, qui lui m'a expliqué que selon les personnes avec qui il avait parlé au niveau de comment fonctionne notre cerveau. L'humain a trois cerveaux. Il y a le cerveau primitif, on sait, il est réactif, mais le cerveau le plus avancé, en fait, c'est une machine à pourfendre les règles. Et on le voit, hein, quand on essaye de mettre une règle, tout le monde essaye de passer dessus, dessous, à gauche, à droite. Donc quelque part, on est nativement fait pour éviter le contrôle. Ou on est nativement fait pour faire semblant qu'on accepte le contrôle tout en faisant ce qu'on veut. Et c'est exactement cette poche de ressources qu'on cherche à aller activer dans les entreprises, puisque je pense que dans toutes les entreprises du monde occidental, surtout dans les entreprises du savoir, les gens ont développé une capacité à protéger leur zone de confort phénoménale, qui fait que tout le monde est suroccupé, on ne sait pas pourquoi, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et qu'il faut aller chercher quelque chose qui leur donne envie de sortir de cette zone de confort pour faire quelque chose qui les excite un petit peu plus. Mais donc le contrôle, il existe pour à peu près personne. Après, on est quand même dans un domaine où, au niveau du contrôle technologique, il se passe des choses qui sont pas des plus sereines, hein. Je veux dire, on a des datas sur tout le monde existe d'une manière beaucoup plus claire dans des databases que dans la vie réelle. Donc, est-ce que les gens vont finir par se rebeller ou vont continuer d'accepter de donner autant de données sans rien en échange? On ne le sait pas. Mais aujourd'hui, la vision de Klaus Schwab, qui est de maîtriser tout le monde, est en train de se mettre en œuvre d'une certaine manière, à toute vitesse. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu la Suisse, le dernier petit élément, il y a des grosses fêtes en Suisse, hein, des carnavals locaux à Neuchâtel, il y a ce qu'on appelle la fête des vendanges,
Oui.
qui est l'endroit qui réunit plusieurs de centaines de milliers de personnes pour boire un vin tout à fait fade, mais en grande quantité dans la plus grande joyeuseté. La nouveauté de cette année, après 2 ans où il n'y a pas eu à cause du Covid, c'est de faire que toute dépense ne puisse être faite qu'avec un bracelet qui contient une puce RFID qu'on est obligé de charger et sur lequel on doit activer en donnant son nom, prénom. Donc, quelque part, et tout le monde va acheter ça. On pourra avoir la fête des vendanges, il y aura des statistiques sur qui a dépensé combien, dans quel temps, pourquoi, et en achetant quoi. Ce qui est quasi effrayant. Moi, on est au summum de la traçabilité, mais tout le monde trouve ça. Ce qui me choque, c'est que tout le monde trouve ça normal. Quand il y a juste moi et un ami où on s'étonne, alors on va acheter notre bracelet comme tout le monde pour aller boire quelques verres comme tout le monde, mais c'est sûr que ça devient particulier.
Non, mais tu amènes énormément de points extrêmement intéressants, effectivement, sur la data. Moi, je compare ça souvent à la Stasi, à la police est allemande, qui faisait des fiches sur tout le monde. Alors, on ne parlera pas des histoires des fiches pour la Suisse, mais ça, qui collecte des data sur tout le monde. Mais l'avantage, à l'époque de la Stasi, c'est qu'il y avait des humains pour traiter ces données. Donc, tout le monde était fiché, mais pour savoir qui faisait quoi, personne ne savait. On a connu la période échelon avec les super ordinateurs, puis on a vu ce que ça a donné. Mais je trouve qu'on vit une époque formidable. À date, c'est les compagnies privées qui savent exactement les tendances, enfin, tout ce qui est. Bah oui, tout ce qui est prédictif
Exactement.
et autres, mais non, c'est cool. Puis je comprends bien que eux seront pas. Enfin, non. Je vais présenter ça comme ça. N'hésitez pas à prendre contact avec Gilles si vous voulez savoir comment proposer un meilleur vin pour votre carnaval. Ça sera un meilleur produit d'appel. Mais non, c'est le fun. Puis effectivement, ça se multiplie. L'argent papier est en train de disparaître de façon volontaire ou non. Est-ce qu'il y a une autre. Je fais souvent semblant de réfléchir, ce qui me permet d'avoir l'air intelligent, puis surtout, ça me permet de me rappeler ce que je voulais poser comme question. Tu as ouvert tellement de portes, mais je ne vais pas toutes les prendre, même si c'est extrêmement
Non.
tentant. Au niveau technique, on va rester sur ta personne. Donc là, on est en 2022. Tu es en train de. Tu continues à travailler sur QBud, je le dis bien,
Ouais,
hein?
oui. Moi, je le dis Keybud, mais de nouveau, on peut le prononcer comme on veut, ça me va bien.
C'est correct.
La liberté au cœur du modèle.
Ah, c'est tellement bien. Ça aussi, ça va finir sur des t-shirts et puis sur un fronton de mur virtuel. Vous en êtes où avec QBud? Tu sais, quand tu parlais effectivement de financement, comment ça se fait que vous soyez encore en Suisse et que vous n'êtes pas à Londres ou à Berlin? Parce que ça a l'air fortement intéressant. Je veux dire, le porteur de projet, moi, je le trouve fortement intéressant, puis je ne suis pas le seul. Le consultant, pareil. J'ai pu, puis ça, ce n'est pas un secret, jeter un coup d'œil sous le moteur. Puis j'ai été extrêmement surpris par la qualité de ce que j'ai vu, et puis surtout par les valeurs portées, puis qui transposaient dans justement le cœur. Et c'est ce que je t'avais dit à l'époque, vous ne vous trompez pas. Puis je crois qu'on est beaucoup à avoir constaté ça. Enfin, je vais dire, quand c'est que ça sort, quand c'est qu'on peut en acheter, quand c'est qu'on peut consommer ça?
Alors aujourd'hui, le produit a différentes phases dans sa croissance et surtout dans nos stratégies. Aujourd'hui, on a un produit qui est utilisable dans les entreprises, qui est la première étape et qui permet, où tout a été mis en œuvre pour que chaque personne puisse exploiter, proposer, amener tous ses talents dans l'entreprise, et on a été déverrouillé tout un tas de petites choses qui bloquaient pour que ça soit possible. Donc cette solution est utilisée par des sociétés qui sont assez importantes en Suisse, hein. On peut en citer deux, qui est Bulgari Watch, donc qui fait partie du groupe LVMH, donc c'est une magnifique marque de montres qui utilise ça. Il y a l'hôpital de Bienne aussi qui commence à piloter sa stratégie et sa gestion des risques avec ça. Donc on a un moteur qui commence à être puissant et on a un nombre de leads assez incroyable. Après, on est en Suisse. C'est vrai qu'on a été freiné par le Covid parce que c'est difficile d'aller vendre une solution innovante quand on ne peut même pas aller voir les gens, hein. Donc il y avait plus de décisions qui se prennent dans les entreprises. Depuis que les portes ont réouvert, on a été voir tout un tas de clients. On a un certain nombre de leads, des leads très chauds, des gens qui ont envie, mais on est en Suisse et en Suisse, ça prend du temps. Un Suisse ne se décide pas comme un anglo-saxon sur let's try it, let's give it a run, let's see. Hein, il faut être sûr que tout va bien, que ça ira, que ça va pas déranger tout le monde, on le fait voir à cinq personnes, etc. Donc on a un très fort intérêt, beaucoup de surprises, parce que on a quand même bousculé pas mal de choses. Hein. C'est peut-être l'intérêt premier de Keybird, c'est qu'on l'a pas conçu comme une nouvelle solution qui ressemble à une autre. On a tout cassé pour tout faire différemment, avec une démarche anthropologique assez poussée et la capacité de se dire il faut vraiment qu'on fasse les choses comme on pense qu'elles doivent être faites, puis pas comme plein de choses plein d'autres produits l'ont fait. Donc ça fait beaucoup d'innovation. Quand les gens voient, ben, ils voient une espèce de vaisseau spatial. Ils disent que ce vaisseau spatial pourrait tout à fait voler, mais bon, ils sont encore au vélo. Donc ça fait quand même un peu un choc. Donc c'est un peu l'état. Aujourd'hui, on est peut-être sur une logique très bootstrapping et très SUS, c'est-à-dire qu'on voulait être sûr que le produit est bien, est utile, est utilisable. Donc avec nos premiers clients, on a amélioré fortement le produit, l'usabilité, la valeur que ça génère. Donc on a un produit qui maintenant est très très puissant sur le marché, quelque part, hein. On a un peu la Tesla de la collaboration, c'est-à-dire que quand les gens le regardent, ils ont l'impression de voir un Asana ou un Notion ou un produit comme ça. Puis quand on est à l'intérieur de la voiture, ben on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, puis qu'on est dans un vaisseau spatial qui va pouvoir nous amener beaucoup plus loin et qui a été chercher des choses que les autres n'ont pas été chercher. Et puis actuellement, ben on se réjouit d'avoir un ou deux clients qui, on espère, vont signer pour continuer l'histoire ici. Mais on se rend compte qu'il faut qu'on le propose à des gens qui sont un peu plus risk-taking qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, on n'est pas quand même dans le pays où les gens prennent des risques. Donc on a une stratégie de développement qui est basée sur des marchés dans lesquels on va être à l'aise. Donc on est en train d'ouvrir un marché surprenant parce qu'on a une personne qui croit beaucoup à notre approche, qui est un franco-africain, un suisso-africain, donc qui est beaucoup en Afrique, et donc on est en train d'ouvrir des nouvelles lignes en Afrique. Hein, là, c'est la recherche du... Quelque part, le souci en Suisse, c'est que les gens sont tellement gavés de technologie que quand on arrive avec une technologie, ben, il faut déjà qu'ils se désintoxiquent des mauvaises technologies qu'ils ont pour en prendre une bonne. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous ralentit. En Afrique, ils en ont pas. Donc, quelque part, on l'a vu, hein, ils ont sauté plein d'étapes intéressantes. Ils sont passés de pas de téléphone au téléphone mobile,
Oui.
hein, et ils ont fait des choses incroyables sur des low-tech mobiles qu'on n'aurait jamais pu imaginer ici tellement, et on a besoin de high-tech pour être content. Donc, on est en train de tester cette voie en disant, ben, c'est plus sympa de pouvoir se déployer dans un terrain où il n'y a pas grand-chose, et quelque part, ben, ils verront même pas que c'est un vaisseau spatial parce qu'ils ne sont pas encore sur un vélo. Donc ça, c'est une des pistes qu'on ouvre. Et l'autre piste qu'on ouvre, ben, c'est le Canada, les États-Unis, où on est en train de chercher des contacts pour pouvoir s'étendre et pouvoir aller chercher d'autres personnes dans ces pays-là. Ça, c'est pour l'aspect démarche de marché. On a bien sûr en recherche d'investisseurs, donc on est en train de finaliser notre business plan qui doit nous permettre de lever de l'argent et de changer de niveau. Et puis parallèlement à ça, bah, lié au business plan, il y a l'axe technologique qui doit faire que notre solution qui est utilisable aujourd'hui dans une entreprise puisse se mettre à pouvoir être utilisée dans deux entreprises qui travaillent en commun, mais avec chacune leur instance de leur côté, avec 3, avec 10, avec 15. Donc aller chercher ce côté décentralisé, interconnexion organique. Et puis la troisième des choses qu'on va faire avec ça, ben, c'est aller chercher cette partie blockchain, parce qu'on est quand même la seule solution qui, avec notre algorithme et notre modèle de gamification, permet dynamiquement de voir quelles sont les forces des gens sur une manière trustée. Donc, le marché qu'on vise demain, ce n'est pas le marché de l'entreprise, c'est le marché de l'interentreprise qui est intéressant. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, dans un monde où les entreprises se concentrent sur leur core business et ont besoin de tout un tas d'acteurs qui ont autour d'eux, qui vont les aider, donc beaucoup de sous-traitance ou de partenariats. Ben, comment je pourrais demain trouver un talent que je sais qui va être bon sur mes problématiques chez un sous-traitant, parce qu'il aura eu fait déjà des expériences similaires sur des problématiques similaires à les miennes, pour l'intégrer dans ma boîte, avec le trust qui va bien. Et puis comment moi, en tant que personne, je pourrais me dire c'est une boîte qui, en général, ça se passe bien avec ces différentes personnes, elle n'est pas rouge-verte, et donc du coup, ça sera codé dans la blockchain, trusté, c'est pas un truc que je peux faire avec du rating, c'est basé sur du concret, sachant que notre modèle de solution intègre une orientation résultat et une validation des résultats pour gagner des points. D'accord. Donc, on est la seule solution aujourd'hui que je connaisse. Si quelqu'un connaît une autre, je veux bien qu'il me contacte et qu'il me dise que je n'ai pas fait mon boulot correctement, mais que je connaisse, qu'ils soient capables de dire les talents qu'on vous propose, ils sont trustés, prouvés. D'accord. Et les gens qui peuvent les prendre, ils ont aussi le trust qui va avec.
J'insiste, c'est un économiste qui nous parle.
Ouais.
Gardez ça en tête. La transition est toute faite. J'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion, c'est bien, mais
Oui.
il faut payer ses factures. Donc là, j'ai le goût de contacter Gilles. Je veux en savoir plus. Et par quel canal je passe? Comment je fais pour te contacter?
Ah, je suis sur LinkedIn, hein, c'est la plateforme de connexion des entreprises où c'est très facile de me connecter, de me contacter, hein. De toute façon, je réponds, je suis tous les jours dessus. Donc, en général, je réponds assez rapidement. Donc, c'est la meilleure voie de contact, la plus rapide que je propose. Après, je suis pas beaucoup sur les autres réseaux sociaux parce que c'est donner beaucoup de données à des gens qui ne les respectent pas. Et puis, mon côté rebelle fait que j'ai choisi de ne pas mettre le doigt dans cette conciergerie-là qui ne m'intéresse que peu.
C'est bien dit. Keybud,
Oui.
il y a un site internet?
Alors, il y a un site internet qui s'appelle www.qibud.com, donc QIBUD.com. Donc, petite analogie sur le nom, hein, on peut le prononcer qi ou chi, c'est ce qui vient de la philosophie asiatique orientale, c'est l'énergie de la vie. Hein, et le bud, par contre, alors là, est basiquement pris de l'anglais qui est le bourgeon. Et l'objectif fondamental de Keybud, ben, c'est de faire grandir ces bourgeons en leur amenant une énergie de la vie, donc de créer un système qui est vivant au même rythme que votre entreprise, donc un jumeau numérique vivant de votre entreprise pour que vous puissiez aller plus loin. Donc QIBUD.com. Puis là, il y a aussi des formulaires de contact où vous pouvez nous contacter ou nous suivre.
Donc rien à voir avec le quotient intellectuel puis la bière Bud. Ok. Bon,
Ben si, parce qu'il y a du plaisir, puis que la bière, ça fait plaisir. Donc on peut aussi dire que c'est comme la bière. Et puis le quotient intellectuel, ben, quand on active toute l'intelligence collective de l'entreprise, son quotient intellectuel va forcément augmenter un peu. Donc là, on est dans la partie plaisir. Et puis c'est un nom rigolo parce que ça fait un certain nombre d'années que mes enfants et mes amis me chambrent avec ça. Donc on peut faire beaucoup de jeux de mots tout à fait délicieux. Et vu qu'on place autant la liberté que le plaisir dans tout ce qu'on fait, bah, c'est sympa qu'on ait quelque chose qui soit pas sérieux et triste pour faire du business et pour essayer de créer un monde un tout petit peu différent.
Encore une fois, c'est beau ce que tu dis. Je vais en faire une devanture pour devant chez nous. Mais parlons-nous juste, parlons vrai. À date, je crois que les gens ont compris pourquoi je voulais t'inviter, puis je voulais qu'on échange ensemble parce que il y a une montagne de choses à découvrir sous ce carré de Toblerone. Ah, mais tellement faut que je me fasse sponsoriser par Nestlé. Alors, plus sérieusement, il est sûr que je te réinvite autant pour l'aspect purement technique qu'en tant qu'entrepreneur. Puis nous, c'est sûr que de toute façon, on va se faire un apéro et une bonne fondue.
Ah,
Si
moi
tu
je
veux,
t'attends, hein.
si je rentre à la maison. J'ai un segment qui s'appelle La bouteille à la mer ou un message au plus grand nombre, ou appelle ça comme tu veux. Message aux futures générations, mais c'est le principe de la bouteille à la mer. Si tu avais un message à donner à la grandeur de l'humanité, quel serait-il?
Ouf.
Ah ouais, je tape
Ok, ça.
fort.
Oh, c'est
Hein.
compliqué ça. On vit déjà, parce qu'avant, il y a quelques années, on disait on va, ça va arriver, aujourd'hui on y est. On vit un monde où les chambardements, où la transformation de l'ensemble de ce qu'on va vivre va être phénoménale, elle l'est déjà, hein. Alors, il y a deux manières d'aborder cette transformation. La première, ben, c'est de s'écrouler, de s'enfoncer dans son trou, de pleurer et puis de se dire que ben, on est foutu, puis d'attendre que la mort survienne dans un état de sidération complète, hein. Et puis une autre manière, c'est de se dire que de toute façon, la vie est magiquement faite pour survivre à tout ce qu'elle peut prendre sur la figure. Donc de croire ça. Et puis de se dire que de nouveau, on tombe sur Darwin un petit peu, hein, c'est-à-dire que, bah, il faut simplement prendre les choses comme elles viennent, s'adapter et se dire que ceux qui s'adaptent le plus vite sont ceux qui vont simplement vivre le plus longtemps et vivre avec certainement le plus de bonheur possible. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des plans sur la comète, hein, et puis commencer à vivre la vie à fond avec ce qui se présente, dans toutes ses dimensions, en privilégiant le plaisir, mais en se disant que tout ce qu'on a acquis de toute façon n'existera peut-être plus demain et qu'il faudra se repositionner différemment. Donc s'il y a un message, c'est prenez du fun, adaptez-vous, faites-vous plaisir, parce que sinon la vie va être triste. Et ceux qui l'ont fait depuis longtemps sont, je pense, les gens les plus heureux. Et ceux qui ne le font pas, bah, sont des gens qui ont fait des belles choses, mais qui ne sont pas forcément heureux derrière. Ne sais pas si ça va comme message pour les générations futures.
Ah bah oui,
Et puis
bah
surtout, bah, on a conçu la techno qui permet de faire ça super bien en collectif. Donc,
oui.
contactez-moi et puis changez de dimension.
T'es sûr que t'as pas des origines suisses allemandes?
Pourquoi?
Parce que tu perds jamais le nord.
Ah ouais.
Non. Et les gens hors de Suisse ne peuvent pas comprendre, c'est une privée joke, mais c'est gentil. Et ici, bah, je ne dis pas gentil ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain et les prochains mois, prochaines années? Agile, on s'entend.
Le développement positif de mon produit, donc de Keybud et des affaires qui sont liées à ça, et puis surtout bah, l'impact que ça va produire et que ça peut produire sur le monde, c'est-à-dire de se dire que aujourd'hui on offre de nouveau, hein, j'ai fait mon vendeur de haricots, ou je sais pas comment vous dites au Canada. On est la seule technologie qui a été faite pour aller activer ces 30-40% de personnes qui sont à l'intérieur de chaque entreprise et qui se la coulent un peu douce, hein, mais en leur donnant envie de faire quelque chose qui va transformer leur quotidien et leur entreprise. Donc quelque part, c'est cet effet qu'on recherche, c'est que les gens nous contactent en me disant, ben, il y a eu un avant et un après Keybud dans ma vie professionnelle. Et bah, Keybud a transformé cette vie pour le meilleur. Et puis maintenant, je fais beaucoup plus de choses qui m'intéressent, auxquelles j'aurais même pas pu rêver encore quelques mois avant. Et c'est ça qu'on recherche quelque part. C'est cet effet de dire, bah, le travail peut être terriblement fatigant, terriblement compliqué, terriblement contraignant. Ceux qui savent développer leur zone de fun dans le travail, c'est des gens qui vont bien. Donc, ouvrons la voie à tous ces gens pour qu'ils puissent le développer et puis que bah, ils aient une vie professionnelle qui soit plus enrichissante pour eux et surtout plus enrichissante pour leur société, pour leur famille et puis pour l'ensemble de la communauté.
Bah écoute, personnellement, je te le souhaite, hein, et je suis certain que je ne suis pas seul. Le temps passe vite en bonne
Oui.
compagnie, mais il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Donc, on arrive déjà au dernier segment qui est quel est ton avant ça, évidemment, Cybèle. Un grand merci, Gilles, d'avoir participé. Je t'ai dit,
Merci beaucoup.
l'Helvète en moi est tout fou, puis il court dans tous les sens depuis avec son drapeau. Le pire, c'est qu'il est juste à côté. Un grand merci aussi pour la qualité de ce que tu as amené. Un grand merci d'être toi, parce qu'au-delà de tout ce que tu nous as
Merci.
apporté, je te considère beaucoup, puis je trouve que tu es un modèle autant pour beaucoup d'Helvètes et d'Helvètes. Qu'un entrepreneur qui devrait être plus connu et reconnu à l'international, parce qu'on a tendance à être extrêmement, voire beaucoup trop discret en Suisse, alors qu'on ne devrait pas. Donc autant directement briser le statu quo. Et au-delà des remerciements, je te laisserai le mot de la fin. Et c'est à toi, Gilles.
C'est toujours le mot le plus dur, le mot de la fin. C'est Quelque part, tout ce que j'ai fait, c'est, il y a une part d'utopie, de rêve. Donc, j'aurais tendance à dire, croyez en vos rêves, croyez en votre utopie. Non seulement ça vous fera de bien, mais du bien, mais le monde en a besoin. Allez-y.
Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi et à bientôt. Bye bye.